Arnung, enterré vivant. Son Excellence le gouverneur avait commis une grosse sottise. Influencé par les charmes de la colonie, à la tête de laquelle il venait d'être nommé, il s'était aventuré incognito à travers le pays afin d'aller visiter certaines petites stations à vendre qui lui avait été assuré conviendrait admirablement à un gentilhomme anglais désireux de faire un placement sûr en même temps que de s'assurer un séjour de repos occasionnel dans la brousse australienne. À dire vrai, son plus grand tort n'était ni d'avoir formé un tel projet, ni de l'avoir mis à exécution, mais bien plutôt, et voilà où son étourderie avait dépassé toutes les bornes, d'avoir acheté non pas la station elle-même, qu'il avait complètement déçue, mais un des chevaux de la dite station, et de s'être mis en tête de regagner sa résidence sur son dos et sans escorte. Évidemment, la distance qu'il avait à parcourir, une centaine de milles au plus, n'était pas énorme, et en sa qualité d'ancien officier de cavalerie, il possédait une connaissance approfondie de l'équitation. Mais s'il n'avait plus rien à apprendre sur les chevaux, fussent-ils même australiens, en revanche, il lui restait tout à apprendre sur la brousse, et sa passion innée pour l'aventure pouvait difficilement suppléer à l'expérience qui lui faisait défaut. La première matinée se passa pourtant de façon merveilleuse. Juché sur sa selle coloniale d'occasion, Lord Hartley, sa courte pipe aux dents et radieux comme un écolier en vacances, avançait en musardant le long des sentiers rocailleux de montagne au gré de son bidet hirsute. Mais vers midi, les choses commencèrent à se gâter. En arrivant dans la ville, ou soi-disant ville, où il se proposait de déjeuner, le gouverneur avisa un hôtel et commanda son repas du ton impératif avec lequel il avait l'habitude de le faire, et qui en Angleterre lui assurait une prompte et ponctuelle exécution de ses ordres. Mais ici, il n'en alla pas de même, et l'aubergiste du cru se montra si peu docile et si peu empressé que son Excellence dut en venir aux mains avant d'obtenir ce qu'il voulait pour lui et sa monture. En repartant, il laissa à son adversaire, outre le souvenir cuisant de la raclée qu'il venait de lui administrer pour mater son caractère, par trop indépendant, une pièce d'or à la place de la demi-couronne que l'homme réclamait. Néanmoins, il ne retira aucune satisfaction de sa victoire, et ce regrettable épisode lui gâcha même sérieusement sa journée. Car il repartait, la lèvre coupée, les jointures meurtries, et surtout avec la pénible impression de ne pas s'être comporté comme il aurait dû le faire. Et à présent, il commençait à s'initier également au mystère de la brousse. C'est ainsi qu'il découvrit qu'une route de brousse était rarement plus qu'une simple piste. Encore, cette piste était-elle la plupart du temps invisible pour des yeux inexercés. Au début, il s'était contenté de se laisser guider par son bidet fraîchement acquis, mais s'étant aperçu que l'animal lui-même perdait parfois la trace du chemin, il en fut bientôt réduit à mettre pied à terre et à examiner le terrain avec son monocle. Non content de cela, il demandait encore des indications à tous ceux qu'il rencontrait. Mais comme celles qu'on lui fournissait ne concordaient jamais entre elles, il ne lui restait plus qu'à faire son choix lui-même quand il arrivait à un carrefour. Le pire, c'est que sa bête ne répondit nullement à ses espérances. Il l'avait achetée bien repue au sortir de l'herbage, et il se rendait compte maintenant qu'elle n'était suffisamment résistante ni pour accomplir une pareille étape, ni pour porter un homme de son poids. On lui avait dit qu'il aurait 30 000 à faire pendant sa journée, mais il avait l'impression, depuis un certain temps déjà, d'en avoir parcouru bien davantage. Sans doute, son allure avait rarement dépassé le petit trot, mais ça n'en fut pas moins un coup pour lui, lorsqu'il s'aperçut qu'il était depuis 8 heures en selle, et que d'après les derniers renseignements recueillis, Il avait encore une demi-douzaine de milles devant lui pour atteindre le pays où il devait passer la nuit. Il en fallait donc déduire qu'on l'avait sérieusement induite en erreur, soit au départ, soit en cours de route. De deux choses l'une, ou bien les 30 000 annoncés devaient plutôt se traduire par 50, bien il y avait longtemps qu'il s'était fourvoyé. D'une manière comme d'une autre, il était trop tard désormais pour retourner en arrière, car le soleil déclinait déjà sérieusement, et le mieux était donc de poser encore plus de questions que jamais à ceux qui se présentaient dans l'espoir de récolter enfin une réponse exacte. À la prochaine occasion qu'il eut de s'informer, on lui certifia qu'il n'était plus qu'à 3 000 du but, et cela lui procura un tel soulagement qu'il accompagna ses remerciements de 5 shillings de gratification. Alors, il ne s'agissait plus que de prendre patience. Avant peu, il serait au bout de ses peines. Il ne lui restait qu'à s'engager dans ce petit chemin, à traverser la barrière qui était au bout, et une fois là, il verrait une piste qui le conduirait en droite ligne à la station où il voulait passer la nuit. Et là, ce qu'il prit pour une piste n'était qu'une étroite rigole pour l'écoulement des eaux. De piste, il n'y en avait pas, ni là, ni ailleurs, bien qu'il fût descendu de cheval encore une fois, et eut dépensé toutes ses allumettes pour la chercher. Et maintenant, la nuit était si noire, l'herbe si haute et les gommiers si pareils les uns aux autres, que ma foi, il ne savait même plus de quel côté il était venu. Ce ne fut guère qu'une heure après que Lord Hartley aperçut enfin une lumière devant lui, et il ne lui fallut pas moins d'une heure encore avant de parvenir jusqu'à elle. C'est de ce moment que débute le plus intéressant épisode de ses mésaventures. Depuis un certain temps, il avait été obligé de descendre de sa monture et de la conduire par la bride. Mais voyant cela, il se remit en selle, serra les dents, grommela un juron, fixa son monocle sur la lumière et se mit résolument en marche sans plus s'écarter une seule fois de la droite ligne. Il traversa un marécage dont il ignorait la profondeur. Il fit franchir à son cheval des clôtures de fils barbelés. Il ouvrit une barrière et s'arrêta au milieu d'une meute de chiens hurlants. La lumière brillait toujours et il ne se rendit compte à présent qu'elle éclairait la fenêtre d'une construction basse en même temps que le seuil d'une porte ouverte. Un homme s'avança vers lui, faisant taire les chiens. « C'est ici la station ?» s'enquit Lord Hartley. « Quelle station ?»« Kilmarnock. »« Oh non !» Lord Hartley resta pétrifié. « Mais enfin, il y a bien une station qui porte le nom de Kilmarnock. »« Oh oui, parfaitement. »« Vous êtes vraiment sûr qu'elle existe ?»« Pas tout à fait sûr. » Oh, c'est déjà quelque chose. Et dites-moi, c'est loin d'ici? Oh, 13 ou 14 000. Pour le coup, Lord Hartley abandonna la partie. Même s'il ne s'était agi que de 3 ou 4 000, son cheval aurait été dans l'incapacité de les accomplir, et lui-même était à bout de force. Et cette station-ci, comment se nomme-t-elle? Ce n'est pas une station, c'est une sélection. « Oh, décidément, je joue de malheur !» soupira Lord Hartley. « Écoutez, j'ai une lettre d'introduction pour les propriétaires de Kilmarnock. Est-ce que je peux vous la remettre à vous, à la place ?»« Gardez-la dans votre poche, » dit le sélecteur. « Vous parlez comme un nouveau chum. Vous n'êtes pas trop grand seigneur pour vous contenter de manger du mouton, prendre un dameneur de coucher par terre, avec une couverture, alors, bon, ben, sauter à bas de cheval, et au diable l'introduction. » Ce fut pour le gouverneur l'occasion d'ajouter quelque chose de plus à son nouveau bagage de connaissances coloniales. Son intuition personnelle fit le reste, et il eut la sagesse d'accepter cette brutale invitation avec autant de franchise cordiale qui lui était faite. Lord Hartley savait être tout aussi bon compagnon qu'un autre lorsqu'il laissait sa dignité de côté. Et vu les circonstances, il avait tout à gagner en s'en dépouillant au plus vite. Et sa bête n'était pas encore à l'écurie que le sélecteur et lui étaient déjà fort bons amis. Une heure après, ils allumaient leur pipe au même fagot, tandis que la femme du sélecteur enlevait les restes d'un très convenable dîner, pour s'éclipser ensuite au plus vite en bonne ménagère qu'elle était. Lord Hartley se débarrassa de ses grandes bottes, présenta ses chaussettes de soie aux flammes et se carra dans le fauteuil usagé avec une sensation de bien-être qu'il ne comptait guère éprouver ce jour-là. Somme toute, il avait eu une heureuse inspiration en se lançant dans cette téméraire aventure. Elle se révélait plus riche en expériences profitables qu'il n'aurait osé l'espérer. Ainsi, ce beau garçon, bien planté de sélecteur, avec sa liberté de langage et ses quelques centaines d'arbres d'âpre culture, était un type tout à fait caractéristique, méritant d'être âprement cultivé par tout gouverneur soucieux d'acquérir des notions exactes sur la vie réelle de sa colonie. Voilà pourquoi, pendant la dernière heure qui venait de s'écouler, Lord Hartley avait pris soin de poser une question chaque fois qu'il s'était trouvé la bouche vide, et s'était appliqué à bien écouter la réponse pendant qu'il mastiquait chaque bouchée. Maintenant que le dîner avait pris fin, il se montrait moins curieux, mais plus observateur. Heureux de se sentir si bien à l'aise après tant de fatigue, j'étais mis à faire l'inventaire de cet intérieur où le hasard l'avait amené et qui était aussi typique en son genre que celui qu'il habitait. Il enregistra ainsi, tour à tour, la cheminée construite avec des rondins, le fusil Hammerless accroché au-dessus des éperons nickelés, pendu à un clou rouillé. Il n'y avait qu'une chose qu'il n'avait pu remarquer encore, pour la bonne raison qu'elle était placée derrière son dos. C'était son propre portrait au milieu d'un calendrier d'énormes proportions. La surprise fut donc vive lorsque son attention se trouva attirée de ce côté, non toutefois sans un préambule, voire même un préambule des plus embarrassants. « Vous prend-on souvent pour le gouverneur ?» Le sélecteur, en disant cela, avait semblé sortir d'une longue rêverie et sa voix avait un accent plus réfléchi que de coutume. Pris au dépourvu, l'éminent convive sursauta comme si on lui avait piqué le bras. « Quel gouverneur ?» demanda-t-il pour gagner du temps. Ben, « le nouveau gouverneur de cette colonie, le comte de Hartley. »« Lord Hartley, vous voulez dire ?» rectifia involontairement le gentilhomme. Le sélecteur chassa de la fumée de sa pipe pour dissimuler le sourire qui lui était venu aux lèvres. « Oh, il n'est pas comte, oui, effectivement, à présent que vous dites cela, en prétendant que nous avons assez de ressemblance, oui, l'un avec l'autre, mais pourquoi me posez-vous cette question ?»« Retournez-vous et vous le saurez. » Se retourner, Lord Hartley ne demandait que cela. En étudiant un peu longuement sa propre physionomie, il aurait le temps de se ressaisir. Le sélecteur se prit cette fois à rire ouvertement. Le portrait le représentait un peu plus jeune qu'il n'était en réalité, et l'on n'y voyait pas figurer l'ombre de barbe grise qu'il avait intentionnellement laissé pousser en vue de cette escapade clandestine. En somme, il s'étonnait que le sélecteur eût remarqué une ressemblance qui n'était pas, il en avait la certitude, assez prononcée pour le trahir, tant qu'il n'était pas disposé à rien avouer. Et pour quelle raison avouerait-il ? Évidemment, cela n'avait pas une bien grande importance, mais il avait envie de conserver son incognito le plus longtemps possible. Les paroles que prononça ensuite le sélecteur le rassurèrent, et lui firent maintenir sa décision de ne rien dire. « Cela devait faire un bon gouverneur, » déclara-t-il. « J'ai été content quand je suis que c'était un Hartley qui te venait d'être nommé. »« Vraiment ?» fit son Excellence en dressant l'oreille tandis qu'il se rasseyait à sa place. Ce fut le seul mot qu'il osa prononcer. Encore craignit-il d'avoir laissé paraître trop de curiosité dans l'intonation de sa voix. « Vous comprenez, je connais un peu la famille, » expliqua spontanément le sélecteur. « C'est pour cela que je l'ai exposé là. »« Ah, vous connaissez un peu la famille, » se risqua enfin à répéter le Hartley. « Oui, je suis originaire d'Angleterre, moi aussi. » Et c'est précisément sur le domaine des Hartley que je suis né et que j'ai été élevé. Ben, peut-on savoir ? Son Excellence a repris juste à temps pour ne pas demander au sélecteur de se nommer. Alors, vous avez bonne opinion de la famille, dit-il, pour substituer une autre question à la première. Oui, on n'y a jamais vu qu'une seule brebis galeuse depuis que je la connais, pour ne pas dire depuis qu'elle existe. Une ombre passa sur la figure du gouverneur, une ombre qu'il s'empressa, mais pas encore assez vite, de faire disparaître. « Ah, ainsi, il y a une brebis galeuse ?» se força-t-il à murmurer. « Oui, affreusement galeuse même. »« Par le gouverneur, j'espère ?» interrogea l'astucieux Lord Hartley, qui n'en avait pas moins grimacé malgré lui. L'autre observait entre ses paupières mi-closes. « Non, pas le gouverneur, » répliqua-t-il, « sans que moi j'aurais pas été content qu'il soit nommé, voyons. » Lord Hartley prêta à peine attention à la gaffe qu'il avait commise. La curiosité s'était emparée de lui et dominait désormais toutes ses autres émotions. Il était en train de faire la récapitulation de tous les membres de sa famille. Oh, la liste n'était pas bien longue. Essayait de se remémorer ceux qui avaient émigré depuis qu'il était au monde. « Non, non, pas le gouverneur, » répéta-t-il, « mais son frère aîné, celui qui aurait hérité du titre s'il avait vécu. Oh, une fameuse veine que cela ne soit pas arrivé. Il avait déjà bien assez déshonoré le nom ainsi. Il aurait certainement fait de la prison s'il s'était enfui hors d'Angleterre et coupé la gorge. » Cette coupée la gorge, voilà la seule bonne action que les deux honorables Robert aient jamais accomplie. Lord Hartley se rongeait nerveusement les ongles, croisait et décroisait à chaque instant les jambes, ne tenait plus en place. Oh, je me rappelle avoir entendu dire que cela s'était passé en Amérique, répondit-il avec autant d'indifférence qu'il lui fut possible d'affecter. « C'est exact, » déclara le lecteur. « Je me trouvais moi-même aux États-Unis à l'époque. »« Ah, vous l'avez rencontré là-bas. » Et malgré tous les efforts qu'il faisait pour se maîtriser, une note d'anxiété perçait dans la voix dure de son Excellence. Une flamme s'alluma dans les yeux pénétrants du sélecteur. « Et je l'ai rencontré, que trop. Là-bas et en Angleterre aussi. » Nul ne sait combien, ma vie entière a été mêlée à celle de M. Robert, et nul autre que moi ne pourrait affirmer quel coquin endurci c'était. Lord Hartley n'éteint plus. Blême et tremblant, il bondit sur ses pieds. Pardon, protesta-t-il d'une voix étranglée. Coquin, peut-être, mais coquin endurci, certainement non. Je le sais, mieux que vous. C'était mon frère. Le sélecteur se pencha en avant sur son fauteuil, les mains crispées sur les bras. « Et vous ne le reniez pas, » murmura-t-il, « et vous prenez sa défense. »« Mais ne vous ai-je pas dit que c'était mon frère ? Il n'est pas un homme au monde qui ait eu un meilleur frère que lui. Il a eu plus de tentations que moi, voilà tout. » Cette fois, j'ai vendu la mèche, ajouta Lord Hartley, avec un rire sardonique. Il regarda à nouveau le portrait qui ornait le calendrier. C'est pour défendre votre frère que vous l'avez vendu, murmura le sélecteur. Le son de sa voix aurait dû faire se retourner mais il n'en fut rien, tant qu'un bruit de pas incertain et celui d'une porte qu'on ouvre ne se furent pas fait entendre à leur tour. Alors, ayant regardé derrière lui, Lord Hartley s'aperçut qu'il était seul. Et le son de la voix lui revint dans l'esprit, et il comprit tout d'un coup la vérité. D'un bond, il s'élança au dehors, et là, dans la lumière de la fenêtre, de cette lumière qui de si loin avait guidé Lord Hartley à travers ce pays inhospitalier, le sélecteur était appuyé contre un des piliers non équarris de la véranda, les joues baignées de larmes que l'on voyait briller jusque dans sa barbe où elles avaient glissé. « Bob !»« Chut, chut, je ne suis plus Bob à présent. » Ah, si tu ne t'es quand même pas tué. Oh, je pensais que c'était tout comme. C'était à 100 lieues de m'imaginer que tu viendrais un jour ici, même si cela avait été. Tu aurais dit qu'il y avait place pour nous deux. Mais cela ne devait pas être, Bob. Cela ne devait pas être. Mais cela est. Je suis mort et enterré dans la brousse. Et tu as pris ma défense après tant d'années. » Un flot de larmes lui monta aux yeux et déborda sans qu'il pût rien faire pour le retenir, car les deux mains étaient prisonnières maintenant, écrasées par deux autres mains qui ne les lâchaient plus. Et les deux frères demeurèrent longtemps ainsi dans la lumière falote de cette petite flamme solitaire qui les avait réunis. Mais la tête plus âgée s'inclina de plus en plus, et la figure plus jeune se durcit et se contracta d'anxiété. Et les yeux les plus jeunes demeurèrent secs. Vers minuit, la femme s'éveilla et s'aperçut que son compagnon n'était plus là, et que l'on n'entendait plus ce bourdonnement de conversation qu'il avait bercé au moment où elle s'était endormie. Elle se dressa sur son séant. Le logis était silencieux comme un tombeau. Elle se laissa glisser hors du lit, mais s'arrêta en hésitant à la porte. Oh, elle avait un bon mari, et cependant, il lui inspirait une peur terrible. Sa supériorité de caste, jointe au mystère de ce passé dont il ne voulait rien lui dire, humiliait la pauvre femme à un point que, malgré toutes les attentions dont il la comblait, ne parvenait jamais à lui rendre aucune assurance et que, malgré qu'il fût si peu susceptible, elle vivait dans la crainte perpétuelle de l'offenser. Elle demeura donc plusieurs minutes près de la porte avant d'oser l'ouvrir. Lorsqu'elle se décida enfin à l'entrebâiller, elle s'aperçut que la pièce était vide, que la lampe était restée allumée sur la table et que la porte donnant sur la véranda était ouverte au vent de la nuit. Excessivement nerveuse, prompte à se laisser envahir sans motif parmi l'appréhension, ce fut pour elle un vif soulagement que d'entendre des voix au dehors. Mais tandis qu'elle s'immobilisait ainsi pour prêter l'oreille, son anxiété, un instant apaisée, redoubla. C'est que les voix parlaient haut parce qu'elles étaient coléreuses, et ces voix était celle de son mari et de l'inconnu auquel il avait offert l'hospitalité. Elle s'élança à travers la pièce jusqu'à la porte ouverte. Ils allaient et venaient côte à côte sous les étoiles à peu de distance de la maison. Elle ne put que saisir au vol un mot par-ci par-là. Deux de ceux qui tombèrent de la bouche de son mari furent obstinés et stupides. Il n'y eut que deux phrases qu'elle aurait pu certifier avoir distinctement entendues. « Ma résolution est prise » et « C'est mon devoir ». L'une et l'autre avaient été prononcées par l'inconnu et il les répéta toutes les deux plusieurs fois. Enfin, au bout d'un moment, le dialogue devint plus distinct. « C'est bon, » disait son mari, « je cède. Je serai prêt à partir dans 10 minutes. » « Mais comment, en pleine nuit ? Oui, tout de suite, ou jamais. Mais pourquoi aller ainsi aux extrêmes? Mais c'est pas moi qui vais aux extrêmes, c'est toi. Puisque ta résolution est prise, ce n'est pas moi qui te ferai perdre ton temps. Bien avant les 10 minutes qu'il avait demandé, le sélecteur vint chercher ses éperons. Il ne put les trouver, pourtant il était à peu près certain de les avoir pendus à leurs clous la veille au soir. Pensant qu'il les avait peut-être laissés par mégarde dans la chambre, il retira ses bottes pour aller s'en assurer, et là, il trouva sa femme assise dans le lit, avec les éperons qu'il cherchait posés devant elle sur les couvertures. Et où t'en vas-tu à pareille heure? Mais qui t'a dit que je m'en allais quelque part? Je l'ai entendu. Oh, tu nous écoutais. C'était la première fois qu'il lui parlait sur ce ton. De la main gauche, il l'avait saisi par l'épaule. De la droite, il approchait la bougie tout contre son visage. Oh, c'était le premier geste brutal qu'il se permettait de vis-à-vis d'elle depuis qu'ils étaient mariés. Mais l'attitude de sa timide compagne resta si digne et si douce qu'il retira immédiatement sa main, sans toutefois cesser pour cela de scruter son visage en l'éclairant. Raconte-moi ce que tu as entendu encore, lui dit-il, et je répondrai à ta question. Elle lui rapporta tout, sans l'ombre d'une hésitation, et voyant combien sa bonne foi était manifeste, il commença à respirer. Alors il prit sa main dans la sienne, et le contact de cet épiderme durci par la rude besogne de chaque jour lui procura une émotion si vive qu'il se mit à lui parler sur un ton qu'elle ne lui connaissait pas plus que l'autre. Celui-ci était aussi doux que celui-là était dur. Oh, tu me pardonneras ma vivacité, murmura-t-il. Tu pouvais savoir combien cet homme m'exaspère. Je ne tolérerai pas qu'il couche sous mon toit, aussi je vais le conduire pour le mettre sur son chemin. Mais pourquoi donc? S'écria sa femme. Il peut bien se débrouiller tout seul. Mais il n'en serait jamais capable. Il n'a jamais quitté la ville. Au bout d'une heure, il serait déjà de retour ici. Néanmoins, la pauvre femme continuait à se tourmenter en se demandant si elle reverrait jamais son mari. Car le doute était désormais entré dans son cœur et elle avait conscience qu'il lui mentait. Malgré tout, elle ne parvenait pas à se résoudre à lui dire franchement le fond de sa pensée. La seule chose qu'elle put faire fut de lui passer son bras libre autour du cou, en le priant et en le suppliant de ne pas la quitter. Toutes ces instances ne servirent à rien, si ce n'est à précipiter des adieux dont la tendresse même confirmait toutes ses craintes. Les deux hommes s'éloignèrent donc dans la nuit constellée, tandis que la malheureuse, repliée sur elle-même dans son lit, écoutait se perdre dans le lointain le pas de leurs chevaux. Pendant 1 heure, ils parcoururent des étendues de brousse aussi denses que celles que son Excellence avait traversées au cours de la précédente soirée. C'est alors, et alors seulement, que le sélecteur se risqua à s'engager sur une route qui méritait vraiment ce nom. Une large route carrossable, une belle route à découvert, où il semblait faire clair comme en plein jour, au sortir de la jungle épaisse au milieu de laquelle elle avait été tracée. Ce fut pourtant une heure sombre entre toutes que celle où le gouverneur s'élança sur cette route en poussant un cri de joie et vit son frère qui l'attendait sous les étoiles. Un beau chemin que celui par lequel je t'ai amené, dit le sélecteur. Eh bien, je te fais mes excuses, mais vois un peu la récompense qui t'attend maintenant. Une bonne route tout du long pour t'en retourner, et une ville sur ton passage à quelques milles d'ici. Je te conseille d'y faire une longue halte. La bête que tu as là a un grand besoin. Si tu la laisses pas reposer un peu, je doute qu'elle te conduise beaucoup plus loin. Le gouverneur avait mis pied à terre afin de se dégourdir les jambes. Son frère, qui lui était resté en selle, se pencha sur lui, la main tendue. Mais tu viens avec moi, s'écria le plus jeune. Oh, je suis venu aussi loin qu'il était de mon devoir de le faire. Mais tu m'avais dit que tu m'accompagnerais. Ah, je voulais dire par là, jusqu'ici. Eh ma pauvre femme, tu l'as donc oubliée. Oui, son Excellence l'avait oubliée. Et cela m'ennuya fort qu'on la lui remit en mémoire. Mais nous avons mille choses à nous dire encore, protesta-t-il d'un ton impatienté. C'est à peine si nous avons eu le temps d'échanger entre deux mots. Nous n'avons pas fait que discuter. Allons, viens. Tu n'as même pas encore dit de quel nom tu te fais appeler, ni comment se nomme l'endroit où tu habites. Et du haut de son cheval, l'aîné sourit à son cadet. Et tu n'en sauras jamais rien non plus, lui répondit-il. De tous côtés, l'on entendait chanter les sauterelles. Le cheval du sélecteur rongeait son frein. Une légère brise passa à travers la feuillée. Mais entre les deux hommes, celui qui était monté et celui qui ne l'était pas, pendant quelques minutes, un silence de mort plana. « C'est entendu, » dit enfin le gouverneur. « Je vais retourner là-bas afin de prendre les dispositions nécessaires et puis je reviendrai te chercher. »« Mais tu n'as probablement pas réfléchi, » lui dit-il, « à quoi tu me pousserais en agissant ainsi ?»« Pour tout le monde, sauf pour toi, je suis réduit longtemps mort et enterré. » Pour tout le monde, sauf pour toi. Je me suis suicidé il y a des années. Si tu m'as retrouvé, c'est par pur hasard ou parce que le destin l'a voulu. Si je fais aujourd'hui ce que je suis censé avoir fait il y a si longtemps, c'est toi qui l'auras voulu. Ne m'y pousse pas, car je te préviens que je n'hésiterai pas. Mais je n'ai droit à rien. Et c'est moi qui possède tout. En t'abandonnant ainsi, je passerai toute ma vie à mes propres yeux pour un lâche imposteur. Repense à tout cela quand tu seras de retour à Government House. Repense-y avec calme, à tête reposée, et tu verras que tu seras de mon avis, ou du moins que tu me donneras raison par affection pour moi. Je veux vivre, j'ai toujours eu soif de vivre. Même dans mes heures les plus sombres, j'ai toujours trop tenu à la vie pour me décider à me l'ôter. Seulement, ma vie ne vaudra plus la peine d'être vécue, si tu t'en vas trahir mon secret. Telle qu'elle est, mon existence me semble bonne. Je ne suis plus déshonoré aux yeux du monde, comme je l'étais et comme je serais à nouveau, si l'on apprenait qui je suis. Voilà où est ton erreur. Il y a des choses qu'on oublie et d'autres qu'on n'oublie jamais. Ce qu'il faut que tu oublies, c'est cette nuit. Et ce que je n'oublierai jamais, c'est la façon dont tu as pris ma défense avant même de savoir la vérité. Tu vas laisser derrière toi, en t'en allant, un homme beaucoup plus heureux que celui que tu as trouvé en arrivant. Et tu vas trouver ici un homme beaucoup plus heureux que tu l'imagines. Tant que j'aurai un arc de terrain à labourer et à ensemencer, dis-toi bien que je ne serai jamais malheureux. Mais nous ne serons tout de même pas sans nous revoir, que diable! Oh, si tu le juges bon lorsque tu auras bien réfléchi à tout, et si tu es capable de me retrouver, allez, adieu. Adieu, Bob. Que Dieu te protège, Harry. Et toi aussi, et celle qui est avec toi. C'est le dernier vœu et le moins sincère qui fut le plus vite exaucé. Car dans la petite maison de bois, au milieu des gommiers, la douleur séjourna toute la nuit, mais la joie fit son apparition le matin.